France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les mémoires ne sont pas des journaux intimes, certes, mais ils sont aussi édifiants et souvent passionnants. « Vous parlez trop, monsieur », avait dit Louis XIV au duc de Saint-Simon. Sans doute était-ce vrai, mais par chance, Saint-Simon ne se contentait pas de parler trop, il écrivait beaucoup. Les mémoires, rédigées pour être publiées, et les autres, Saint-Simon donc, mais aussi Chateaubriand, Stendhal, Benjamin Constant, les Goncourt, Amiel, etc. Grâce à eux, l'ombre de certains anonymes qui étaient en train de s'effacer sur les murs allait gagner une postérité. Le 6 septembre 1954, sur la chaîne nationale, dans le cadre de l'Université des Annales, Émile Henriot se penchait sur les confessions, mémoires, souvenirs de Saint-Simon à Catherine Mansfield.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de par la personnalité de leur auteur, certains mémoires devenus par la suite célèbres ont été longtemps tenus sous le boisseau et n'ont pu voir le jour que longtemps après la mort de leur auteur. En sorte qu'il est curieux de constater que le XVIIe siècle, par exemple, n'a rien su des deux ouvrages décisifs dans lesquels il a été peint, les mémoires du cardinal de Retz et les mémoires de Saint-Simon, ces deux chefs-d'œuvre. Les mémoires de Retz n'ont vu le jour après de grands et regrettables manques qu'en 1717, et ceux de Saint-Simon ont connu de plus longues oubliettes encore. La première édition en fut faite dans les premières années de la Révolution, où l'on était bien sûr très content de pouvoir étaler au grand jour les scandales et les exactions de l'Ancien Régime. Mais cette édition en 7 volumes ne comportait encore que des extraits, et il a fallu attendre 1829 pour que la première édition honorable de ce grand texte vît le jour. Elle ne remplissait pas moins de 20 volumes qui en sont devenus aujourd'hui 45 dans l'édition véritablement monumentale publiée par M. de Boislille dans la savante collection des grands écrivains. Ainsi donc, le siècle du cardinal de Retz et de Saint-Simon n'a pas su ce que ses témoins d'envergure ont dit de lui en le peignant, l'un dans l'imbroglio de la Fronde, l'autre dans le déclin du roi Soleil. Première conséquence à en tirer, ces deux témoins à charge n'ont été contredits par aucun de leurs contemporains qui auraient pu servir contre de témoins à décharge, de défenseurs ou même seulement de critiques. Nulle part. Pourtant, une critique attentive et serrée de contemporains fondée à bien savoir les choses ne serait plus nécessaire qu'au sujet de la véracité de ces livres souvent aussi fallacieux qu'ils exercent d'attrait et de séduction, en raison même du talent et de la vigueur avec laquelle leur auteur y a ramassé ses rancunes, ses passions, ses griefs, ses espérances, exalté ses amitiés et transcrit ses déboires ou justifié sa conduite. Prenons le cas de Saint-Simon. Vous avez tous lu ses mémoires, ou du moins des extraits de ce livre énorme. Il n'est pas douteux que Saint-Simon soit parfaitement sincère, mais il est évident aussi, quand on l'a un peu pratiqué, qu'il arrange souvent la vérité à sa façon. Il était entiché de sa noblesse, il était fou de bonheur d'être né duc et pair, et fort attaché à ses traditions familiales, tout gonflé de son importance, il était persuadé représenter une continuité, il était convaincu que les ducs et pairs devaient avoir voix au chapitre dans le gouvernement de la France, et toute une partie de ses mémoires consistera à revendiquer cette prérogative et à se plaindre tantôt du roi, tantôt du Parlement, tantôt des ministres qui ne les reconnaissaient pas ou les combattaient. À cet égard, nul n'aura été sous Louis XIV plus réactionnaire que lui. Il était resté attaché aux plus vieilles mœurs des temps passés et il aurait voulu y revenir. Du vivant de Louis XIV, à la cour duquel il a figuré en témoin sans cesse à l'affût, aux yeux pénétrants, pendant les 20 dernières années du grand roi, il n'a été exactement rien. mais très attentif à faire sa cour, voyant et regardant, assistant le roi tous les jours, le saluant, cherchant sur son passage à attacher son regard, parfois même à recevoir un mot aimable de sa bouche, il n'aura, en 20 ans, vu le roi en particulier que 2 fois. Et ces 2 fois, comme il n'y avait personne entre eux pour rapporter leur entretien, et que le roi n'a pas laissé de notes sur la façon dont la chose s'est passée, c'est en somme Saint-Simon tout seul qui les rapporte. Et il y a tout lieu de penser qu'il les rapporte à sa manière. Les 2 fois, il était allé voir le roi pour se plaindre, pour se justifier. Il savait que le roi n'était pas content de lui et lui reprochait de parler trop. « Vous parlez trop, monsieur, » avait dit le roi. « De dire trop librement à qui voulait l'entendre ses façons de voir. » Saint-Simon nous raconte que, fâché de s'être ainsi attiré le regard sévère ou le mécontentement du maître, il obtint audience et entreprit aussitôt de lui démontrer avec une chaleur presque insolente que le roi se trompait et que c'était lui, Saint-Simon, qui avait raison, même quand il lui arrivait d'avoir raison imprudemment. En sorte que chaque fois, à le lire, c'est Saint-Simon qui a l'air de donner une leçon au roi et Louis XIV qu'il nous montre à peu près convaincu et même radouci, et même ramené par son éloquence d'innocent accusé à tort. Mais encore une fois, on n'était pas là pour savoir comment les choses se sont passées, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a lieu de mettre un point d'interrogation dans la marge où l'épisode est raconté. Je vais vous donner un exemple de ce fait fréquent, que ce sont souvent les sceptiques qui ont tort. Il s'agit cette fois de Chateaubriand et de ses aventures du dernier Abin Sérage, où, sous couleur d'une fiction romanesque, il rapporte le souvenir d'une visite qu'il fit à l'Alhambra de Grenade avec une dame qui était venue l'y attendre au retour de son voyage en Orient. Dans cette page, Chateaubriand dit avoir vu la lune se lever et répandre sa clarté douteuse dans les sanctuaires abandonnés et dans les parvis déserts de l'Alhambra. La phrase est belle. Mais il s'est trouvé 2 érudits pour démontrer que Chateaubriand était un menteur. Et à cet effet, ils ont assez diaboliquement imaginé d'aller consulter l'annuaire du bureau des longitudes, où ils ont découvert qu'à la date léguée par Chateaubriand, il n'y avait pas de lune. L'annuaire des longitudes est formel. Nos savants le firent savoir dans une édition critique du texte incriminé et j'eus l'épreuve de leur travail avant sa publication sous les yeux. Cette idée de faire démentir Chateaubriand par l'annuaire du bureau des longitudes me parut, je l'avoue, assez forte. Mais je voulus en avoir le cœur net et j'allais tout exprès de la campagne, c'était pendant l'été, de la campagne, tout exprès à Paris, à la Bibliothèque nationale, et je me fis apporter le dit annuaire des longitudes. Eh bien, savez-vous ce que j'ai eu le plaisir de constater? C'est que nos érudits s'étaient trompés. Ils avaient consulté l'annuaire de 1809, et cette année-là, en effet, la lune n'était pas levée la nuit où Chateaubriand se promenait avec sa belle dans l'Alhambra. Seulement, ce n'est pas en 1809 que cette promenade a eu lieu, c'est en 1807, le 14 avril. Et le 14 avril 1807, la lune y était parfaitement. Savez-vous comment je le sais? Eh bien, parce que moi aussi, j'ai consulté l'annuaire du bureau des longitudes, mais moi j'ai consulté le bon, l'annuaire de 1807. Ceci simplement pour prouver qu'on a beau avoir du génie, on n'est pas nécessairement un menteur. Et qu'en écrivant les mémoires d'outre-tombe, où il a peint sa vie en écharpe, Chateaubriand n'a pas menti. Je crois d'ailleurs qu'il s'aimait trop pour dire autre chose en bien ou en mal que sa vérité. Je ne vous ai parlé jusqu'ici que des mémoires écrites par leur auteur pour être publiées, pour être lues. Car il y a les mémoires faites pour les autres et il y a les mémoires qu'on écrit pour soi. On veut se connaître, on veut rappeler le temps disparu, on veut essayer de fixer des moments de sa vie, ce qu'on a vu, ce qu'on a su, ce que l'on a senti, ce que l'on a souffert. On veut essayer d'arracher à la fuite effrénée du temps une partie de soi à sauver, qu'on aimerait même quelquefois sauver pour soi tout seul, sans aucune préoccupation de publication. Je dois dire que pour l'amateur d'âme et le curieux de vérité humaine, ce sont ces écrits-là qui sont les plus intéressants, ceux de Stendhal par exemple, toute cette partie autobiographique de l'œuvre de Stendhal, à laquelle toute sa vie, curieux de connaître l'animal, comme il dit en parlant lui-même, il n'a pas cessé de s'exercer dans des ouvrages différents. D'abord, pendant une période de sa vie, Stendhal a écrit au jour le jour son journal, dans lequel, en sa jeunesse, il notait chaque jour ses faits et gestes, ses pensées et ses sentiments, examinait avec une absolue franchise et une sincérité qui disait tout. La grande affaire de Stendhal a toujours été de se connaître lui-même par une surveillance de tous les instants. Par la suite, plus avancé en âge, se retournant sur son passé, il a entrepris d'écrire, à proprement parler, des mémoires organisées, en se décrivant lui-même sous les traits d'un personnage objectif, et ce sera sa vie d'Henri Brulard, où il prend le personnage dès son enfance, le montre dans son adolescence, sa formation spirituelle, ses conflits familiaux, ses amitiés, ses premiers troubles amoureux, et il mènera son Brulard jusqu'à la campagne d'Italie et à l'arrivée à Milan en 1800. Dans un troisième écrit biographique, Stendhal adoptera cette fois la forme des souvenirs, et dans ses souvenirs d'égotisme, se remettant lui-même directement en scène, il racontera la période de sa vie parisienne vers 1820, à laquelle époque il composait son livre de l'amour. Je n'ai pas besoin de vous dire le cas extrême que cette catégorie particulière de Stendhaliens, qui s'appelle les bellistes, font de ses trois livres autobiographiques, où c'est Henri Bell, sous ses différents aspects, qui se peint au naturel, dans son plus parfait naturel, en se regardant dans un miroir. Un autre document du même ordre, et aussi d'un vif intérêt pour les amateurs d'analyse, c'est le journal intime de Benjamin Constant, lui aussi attentif observateur de lui-même, soit qu'après coup, il ait raconté son enfance sous forme de souvenirs, comme dans le cahier rouge, soit qu'il se soit raconté à lui-même toute sa vie, dans son admirable journal, admirable non point par l'écriture ou le développement, car les notes quotidiennes de Benjamin Constant, au contraire, sont brèves et toujours réduites aux faits essentiels. Mais ce journal est admirable dans cette réduction même, précisément par sa volonté de vérité et d'exactitude manifeste, et même quelquefois pathétique, quant à la vérité obtenue et à l'honnêteté profonde de l'observateur lui-même, qui jamais, au plus fort de ses plus tumultueuses passions, pour Anna Lindsay, pour Madame de Staël ou pour Juliette Récamier, n'a cessé de voir clair en lui, et qui jamais, juge cruel, ne s'est menti à lui-même sur lui. Nous avons de nos jours de nombreux et déjà célèbres exemples de journaux aussi longuement et méthodiquement tenus par des écrivains épris de leur propre personnage. Le plus remarquable est le journal de Gide, à mon sens le plus important de tous ses écrits. Gide, n'ayant jamais cessé de rester au centre de lui-même, son plus grand sujet d'analyse et de curiosité dans sa continuelle introspection. Si vous voulez bien y songer, tous les autres écrits d'André Gide, ses romans même, ne sont sous une autre forme que des témoignages divers de cette unique curiosité, les exemples romanesques qu'il a donnés de lui-même pour illustrer les théories, les sentiments et les idées qu'il avait d'abord enregistrées au cours de son enquête de toute une vie. Nous avons aussi le journal de Jules Renard, celui-là d'ordre presque exclusivement littéraire et anecdotique. Jules Renard, observateur de tout ce qui se passe autour de lui et même aussi quelquefois en lui, a laissé là un document de premier ordre, un peu grinçant, à la fois sur son propre caractère et sur l'époque littéraire à laquelle il a été mêlé. À cet égard, le chef-d'œuvre du genre est et sera assurément le fameux journal des Goncourt. Bien que les Goncourt ou Edmond Goncourt survivants y aient souvent parlé d'eux-mêmes, de leur façon de voir, de sentir et de travailler, Ce journal est plutôt le journal des autres, et à ce seul titre, il sera, et il est déjà, d'un grand prix pour l'histoire littéraire de la deuxième partie du siècle dernier. Ce sera, je crois, assez amusant à se rappeler quand on aura enfin réussi à publier ce journal dans son intégrité absolue, projet qui, comme vous le savez, donne beaucoup de tablatures en ce moment à l'Académie Goncourt. Goncourt acceptait sans aucune défense critique à peu près tout ce qu'on lui racontait, et il l'a enregistré parfois imprudemment dans ce journal. Ce sera certainement curieux à lire, mais il faudra le lire avec attention pour ne pas risquer d'être dupe en étant souvent aussi gobeur, si je puis ainsi m'exprimer, que l'était devenu à la fin de sa vie Edmond Goncourt lui-même. Un trait commun à presque tous les livres de mémoire, à tous ses souvenirs, à tous ses journaux, c'est le sentiment tragique qui s'en dégage et auquel aucun de ses écrivains d'eux-mêmes n'a pu se défaire. Le sentiment de la fuite du temps, le temps, ce grand promoteur de toute cette littérature manifestement cherchée et cultivée comme un refuge contre lui. On a d'abord voulu fixer le détail d'un jour, la silhouette passagère d'un instant. Arrête-toi, tu es si beau, du bist so schön, comme s'écrit Faust. Au-delà de l'instant fixé, on est pris à ce vertige de soi regardé au fond des années, en train de se défaire dans son passé, et en même temps, on a aperçu la richesse de tout ce passé accumulé en soi, dans cette épaisseur de souvenirs qui se confond avec l'épaisseur même du temps. Le journal est ainsi devenu, pour celui qui le tient, une illusion de sécurité. On se met à l'abri, de page en page, contre son effritement continu, mais hélas, pour combien de temps ? L'idée du temps, de soi perdu, de soi retrouvé, c'est le thème même que Marcel Proust utilisera dans cette autre espèce extraordinaire de mémoire qu'il a rédigé en somme sous forme de roman dans son immense ouvrage « À la recherche du temps perdu ». Un autre extraordinaire personnage s'est débattu d'une manière pathétique contre la terreur de disparaître. C'est le fameux rétif de la Bretonne dont il me faut maintenant évoquer ici l'attirante et mystérieuse figure. Rétif de la Bretonne est un étonnant écrivain de second ou de troisième ordre qui vivait au XVIIIe siècle, qui a été un type à la fois dans le genre de Casanova et dans le genre de Balzac, sans le charme léger de l'un et sans le génie de l'autre. Mais dans sa vie mouvementée, passionnée, extravagante, aussi, elle aussi, toute remplie d'amour, d'intrigue, d'aventure, et dans ses livres, il en a écrit plus de 300 qu'il composait lui-même à la main, il a remué avec talent, avec force, avec bizarrerie, parfois, mais souvent d'une manière tout à fait folle, un monde infini d'idées de tous ordres où il se proposait de peindre les mœurs, de châtier les méchants, de réformer la société, le théâtre, la langue, la grammaire, le régime des douanes et beaucoup d'autres choses encore. Bref, de faire en tout et pour tout le bonheur du genre humain. C'est un programme ambitieux, rétif de la Bretonne n'y a, je crois, jamais réussi. En feuilletant l'ouvrage « Capital de Rétif », M. Nicolas ou le cœur humain dévoilé, je lis des phrases comme celle-ci qui expriment bien les raisons de cet homme déraisonnable. « Je ne sais si les autres hommes me ressemblent, mais c'est pour moi une émotion délicieuse que celle occasionnée par une date, au-dessous de laquelle est exprimée quelquefois la situation de mon âme, il y a 2 ans, 3 ans. Si elle était triste, horrible même, je tressaille de joie comme un homme échappé au naufrage. Si elle était heureuse, je la compare et je m'attendris. Si elle était attendrissante, alors cet attendrissement se renouvelle avec force. Il m'enivre et je pleure encore. » C'est pour avoir été la victime d'une sensibilité analogue que le célèbre Amiel a laissé un nom représentatif dans la série déjà nombreuse de ces égocentristes penchés sur eux-mêmes, avec cette dilection particulière que les casuistes appellent d'un mot si joli pour quelque chose d'aussi triste, la délectation morose. Ce Genevois, amoureux de lui-même, avait été professeur de philosophie et aussi quelque peu poète. Toute sa vie, il aura désiré la gloire et de faire enfin quelque chose qui l'assura que son nom ne périrait pas. Or, ni dans les cours d'esthétique et de philosophie qu'il professait à Genève, ni dans les essais et les vers qu'il a publiés, il n'a réussi à fixer, par quelques traits heureux et bienvenus, l'attention de ses contemporains. Ses conférences distillaient, paraît-il, l'ennui, c'est quelquefois la règle du genre. D'autre part, faute de talent pour s'exprimer, ses vers sont franchement mauvais. Aussi, quand il mourut en 1881, Amiel semblait n'avoir fait que passer sur terre et l'oubli de voir l'engloutir tout entier. Il laissait cependant une œuvre considérable, inédite, qui allait procurer à sa mémoire la haute réputation qu'il avait si fort appelée de son vivant. Cette œuvre, c'est le journal de sa vie intime, plus de 16 000 feuillets manuscrits, où, jour par jour, au cours d'un tiers de siècle, avec une extraordinaire puissance d'analyse et un amour immodéré de lui-même, il s'était sans trêve ni fatigue étudié, démonté, surveillé, ausculté, prévu, palpé sous toutes les faces et dans tous les aspects de son âme, mobile, sensible, cultivée, égoïste et, je dois le dire, parfaitement inutile. Pas une page où il n'ait gémi sur son impuissance, son éternelle hésitation, son incapacité d'agir. L'action paraissait méprisable à ce rêveur. L'action, dit-il, n'est que la pensée épaissie. La sienne demeurait toujours d'une extrême fluidité. Voici lui-même comment il s'est peint, rêveur mobile qui se laisse bercer à tous les souffles et jouit, étendu dans la nacelle de son ballon, de flotter à la dérive dans tous les mouillages de l'éther et de sentir passer en lui tous les accords et les dissonances de l'âme, du sentiment et de la pensée. Paresse et contemplation, sommeil du vouloir, vacances de l'énergie, indolence de l'être comme je vous connais, aimer, rêver, sentir, comprendre, je puis tout pourvu qu'on me dispense de vouloir. De la sorte, penché sur son abîme intérieur, Amiel a passé ses jours à écouter, dit-il, bruire le temps et couler le torrent de la vie universelle et à l'entendre distinctement tomber goutte à goutte dans le gouffre. Mesdames, messieurs, je vous avoue qu'au sortir de cette sorte d'aquarium mental, à côté de ce maladif Amiel, je suis assez content de pouvoir mettre pour finir un joli et gracieux visage, orné d'intelligence autant que de beauté, et tout illuminé par son fulgurant amour de la vie, promise hélas à un terme si court. Marie Bashkirtseff ne ressemble aucunement à l'analyste genevois. Elle était belle, elle était heureuse, elle avait une grande situation dans le monde, elle avait la fortune, et soit qu'elle chantât ou qu'elle peignît, elle avait déjà du talent. Elle désirait la gloire, elle n'aspirait qu'à l'amour. Sa destinée, certes, a été cruelle, elle est morte à 24 ans, minée par la tuberculose et sachant par une prescience redoutablement aiguisée qu'elle était condamnée à mourir tôt. Cependant, le triste et merveilleux journal que cet enfant nous a laissé de cette vie si brève est un prodigieux document, un incomparable bréviaire de vie intérieure, tout irradiant d'intelligente ardeur, de maîtrise de soi, de volonté tendue et de haut conseil. Vous savez le cas singulier que Barrès, au temps de sa jeunesse, faisait de cette jeune fille héroïque et de quel symbolique sobriquet il l'avait surnommée Notre-Dame qui n'est jamais satisfaite. Ces mots peignent exactement la qualité d'esprit de la jeune Russe et en qui brûlait une flamme si élevée, un tel désir de perfectionnement spirituel et de constante amélioration de soi. Sans doute, nous ne pouvons relire sans émotion le journal de Marie Bashkirtseff à cause de ce que nous savons de sa destinée si tôt franchie et parce que nous savons bien, nous sentons bien en tournant les feuillets et en nous approchant de la fin du livre qu'elle mourra bientôt inassouvie à la dernière page. Assoiffée, affamée de tout, elle désirait, elle appelait tout, les grandes choses et aussi les plaisirs les plus enfantins. La goût, l'amour, la gloire, le génie, de belles robes, être la plus belle et primée partout. Elle n'a rien eu et elle nous a laissé seulement, dans ce pathétique journal, les inoubliables accents de son désir et son désespoir, exhalés dans son dernier souffle, dans le cri panique sur lequel se clôt son journal. Maman, la vie, c'est beau. Elle n'a pas été la seule. Plus près de nous, sur un autre ton, L'exquise et sauvage Catherine Mansfield, dans son perpétuel vagabondage de mourante, recherchant toujours un ailleurs où se trouver mieux, où guérir, lucide, discrète et perdue. Mais au moins, avant de mourir, Catherine Mansfield a pu, sinon achever, mettre au point le plus haut son œuvre parfaite, qui, plus que son journal secret, retenu, parle d'elle et l'a fait aimer, en la faisant connaître, jusqu'au jour où, désespérée, elle meurt dans sa folle retraite d'avant, près de Fontainebleau, dans un phalanstère de philosophes. J'ose à peine parler du journal aussi dramatique de la malheureuse Paule Régnier, qui s'est crue aimée d'un poète, mais une fois ce poète mort à la guerre en 1915, elle avait appris la vérité. Ce n'était pas elle, mais sa sœur, que le poète avait aimé. Elle a su garder 20 ans son secret, le secret de sa déception, et elle est morte seulement quand elle s'est aperçue à la longue que, n'ayant plus à en souffrir, il n'y avait plus d'intérêt pour elle dans la vie. Vous me pardonnerez d'avoir été long. Le sujet, je crois, méritait ses développements et je n'ai fait encore une fois que l'esquisser. Heureux si j'ai pu inspirer à quelqu'un de vous de la curiosité, de la sympathie pour ces vivants d'un jour, un instant côtoyés, dont on n'aurait rien su sans une page de journal ou quelques feuillets d'un carnet, et ces morts d'autrefois qui ont ainsi cerné d'un trait plus durable qu'eux-mêmes leur ombre en train de s'effacer sur le mur, une compagnie infinie d'âmes émouvantes s'est sauvée ainsi, pour nous fraternelles, à tracer ces livres de mémoire. Quel cercle d'amis, toujours à retrouver aux heures de la rêverie au-delà, dans ce monde à part, si vivant malgré l'apparence, pour ceux qui savent apprivoiser les fantômes, tout simplement en sachant lire, leur message nous est parvenu.
Conférence donnée par Émile Henriot dans le cadre de l'Université des Annales, intitulée « Confession, mémoire, souvenir de Saint-Simon à Catherine Mansfield », a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 6 septembre 1954.